Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. L'offensive européenne d'Emmanuel Macron. Il faut donner du sens à l'Europe. Le président monte en première ligne dans une tribune publiée dans tous les pays européens. Il veut une renaissance autour de trois ambitions: liberté, protection, progrès. On sera avec Jean-Rémy Baudeau dès le début de ce journal. Jean-Rémy qui a lu cette tribune présidentielle. Pour avoir proféré des menaces de mort sur Internet, le frère du tueur du marché de Noël de Strasbourg, condamné aujourd'hui à 6 mois de prison ferme. La famille de Carlos Ghosn parle de conditions de détention moyenâgeuses. Elle décide de saisir directement les Nations Unies. Le Vatican va ouvrir les archives secrètes sur le pape Pie XII. Cela pourrait permettre de faire la lumière sur son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Sujet controversé. Le foot France-Uruguay, c'est un match amical qui se joue en ce moment à Tours. Match de préparation au Mondial féminin. C'est la mi-temps et les Bleus mènent 3-0. Côté météo, retour au calme pour tout le monde demain après les coups de vent enregistrés depuis hier, parfois très violent. La dépression qui a frappé notre pays est en train de s'évacuer. Moins de vent, mais pas forcément du beau temps. De nouveau une très grande douceur, en tout cas pour le sud. Prévision météo complète de Valérie Darmon à la fin de ce journal. Et puis je vous rappelle votre rendez-vous, comme tous les soirs, à 22h20 avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir le directeur général de Danone Produits Frais, François Hérault.
Europe 1.
Emmanuel Macron lance donc ce soir la campagne pour les élections européennes. Le scrutin est dans moins de 3 mois. Le président s'exprime dans une longue tribune qui sera diffusée demain et relayée dans tous les pays européens. Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1 est en direct avec nous. Bonsoir.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Jean-Rémy, d'abord, que faut-il retenir de cette tribune ?
Eh bien Isabelle, on retiendra la tonalité de cette tribune qui commence par ces mots: il y a urgence. Urgence à quelques semaines du Brexit, urgence avec la montée des populismes, urgence avec les ingérences étrangères ou la question climatique. Et dans ce texte relativement concis, le président Macron présente ainsi les mesures qu'il veut défendre à l'occasion des européennes. Quelques exemples concrets: un nouvel espace Schengen avec une protection, je cite, des valeurs et des frontières face aux migrations. Le président plaide notamment pour une police des frontières communes. Côté écologie, Emmanuel Macron propose une banque du climat pour financer la transition écologique avec un objectif zéro carbone en 2050, 2 fois moins de pesticides en 2025. Le président français prône par ailleurs un salaire minimum européen, un socle de droits sociaux, une préférence européenne pour le business, l'interdiction du financement des partis européens par des puissances étrangères. Enfin, parmi les idées Made in France, ou peut-être même d'ailleurs Made in Gilets jaunes, le président propose une conférence pour l'Europe, une sorte de grand débat à l'échelle du continent où pourrait être abordé, dit-il, sans tabou, tous les changements nécessaires, même, dit-il, la révision des traités.
Jean-Rémy, on peut dire que le président, officiellement, est entré en campagne pour les européennes ?
Oui, l'Élysée s'en défend, mais Emmanuel Macron a évidemment lancé ce soir la campagne des européennes. Un conseiller me confiait juste avant la parution que ce texte était, je cite, un discours de mobilisation et de cadrage. Ça va alimenter la campagne, espère l'un des auteurs du texte, bien conscient que le programme de La République En Marche sera largement inspiré par cette tribune. Du côté du QG européen LREM, justement, j'en ai parlé à certains aujourd'hui, et on veut croire que le président sera un soutien, mais ne prendra pas toute la place lors de cette campagne, alors même que la tête de liste n'est pas encore annoncée. Elle aura suffisamment d'épaisseur pour porter un projet propre, veut croire un cadre macroniste. Mais on ne dira jamais le contraire de ce que pense Macron, car on est d'accord, conclut-il. Bref, tout le monde est dans le rang. La réalité, c'est que le président Macron, avec son texte pour une renaissance européenne, pose les bases de la campagne. C'est sa capacité de réforme qu'il met en jeu au niveau européen. Et pour l'heure, les sondages lus sont plutôt favorables. La liste LREM arrive en tête de nombreux sondages devant le Rassemblement national, les Républicains ou encore les Insoumis.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1 en direct. Emmanuel Macron qui reçoit ce soir le soutien de l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin pour ses élections européennes dans le journal Le Figaro. Parce que, dit-il, il s'agit du projet européen le plus abouti. J'adhère au constat, à la vision et au projet. L'intuition que nous avons eue avec Alain Juppé après le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron se confirme aujourd'hui, ajoute Jean-Pierre Raffarin.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 22h04 et le frère du terroriste de Strasbourg, Chérif Chekat, condamné aujourd'hui à 6 mois de prison ferme. Malek Chekat comparaissait pour menace de mort en récidive après des messages publiés sur Facebook. Arthur Elbaché, vous avez suivi ce procès pour Europe 1 à Strasbourg. Comment s'est-il justifié ?
J'ai fait une connerie, d'accord, je suis un con, voilà. Dans le box, Malek Chekat essaye de tout expliquer. Au moment où je postais ça sur Facebook, dit-il, j'avais les idées pas très claires. Il parle de ces messages qui, dit-il, le procureur ont replongé la ville pendant quelques heures dans la peur et dans l'angoisse. Des messages publics dans lesquels il laissait entendre qu'il s'apprêtait à commettre un attentat. Des messages dans lesquels le frère de Sherif Shekat reprend des expressions utilisées, on le sait, par l'auteur de l'attentat de Strasbourg le 11 décembre. « Je ne pensais pas à mon frère », jure Malek Shekat. Et quand le juge l'interroge sur ses relations avec Sherif, « Mon amour pour mon frère ne changera jamais, mais je condamne ce qu'il a fait. Sur la religion, on n'était pas d'accord », dit celui qui assure ne plus croire en Dieu, mais avoir tendance à aller vers le christianisme. « Que tout le monde sache que je ne menace personne », dit-il, « que j'ai l'intention de m'en prendre à personne ». Malek Shekat a déjà été condamné 11 fois, essentiellement pour violence, mais aucune trace de radicalisation chez vous, dit le juge. « Vous n'êtes pas fiché S ». Vendredi, je venais d'apprendre que je perdais la garde de mon fils, explique l'accusé. Je n'avais plus d'espoir, plus de force. Il y a des papas qui montent sur des grues pour voir leurs enfants, dit son avocat. Lui, il a fait n'importe quoi. Un an de prison, dont 6 mois ferme. Voilà, au final, le jugement. Et pour expliquer la certaine clémence dont il anticipe le soupçon, le président du tribunal dit une peine plus lourde. C'était juste vous faire payer le fait d'être le frère d'un terroriste. Strasbourg, Arthur Elmbaché, Europe 1.
Une enquête administrative ouverte à Grenoble après la mort de deux jeunes de 17 et 19 ans à scooter alors qu'ils étaient poursuivis par la police. Samedi soir, ils circulaient sans casque sur un scooter volé. Ils ont percuté un autocar. Drame qui a déclenché une nuit d'émeute dans leur quartier. Le parquet évoque pour l'heure un accident. Mais dans ce quartier du Mistral, certains parlent de bavure. Aujourd'hui, le maire de Grenoble, en tout cas, a lancé un appel au calme. La famille de Carlos Ghosn a décidé de saisir les Nations Unies plus de 100 jours après son arrestation spectaculaire. Elle estime en effet que les droits fondamentaux de l'ancien PDG de Renault détenu au Japon ne sont pas respectés et parle même de conditions de détention moyenâgeuses. Écoutez Maître François Imret.
C'est une détention arbitraire parce qu'elle viole les droits fondamentaux qui protègent la présomption d'innocence, qui protègent le droit de se défendre, de savoir les charges qui sont articulées contre vous, parce que cette détention est particulièrement dure et sous aucun contrôle de magistrat. Que de façon tout à fait artificielle, la garde à vue a été prolongée plusieurs fois par un procédé qui consistait à couper la procédure en tranches pour pouvoir priver le détenu des droits fondamentaux auxquels toute personne a droit dans nos pays lorsqu'on est interrogé. Mais le premier droit, c'est celui de sa dignité personnelle. C'est aussi de savoir ce qu'on vous reproche et de pouvoir vous défendre et de pouvoir répondre. Eh bien, tous ces droits ont été niés à Carlos Ghosn. Et ce sont des droits pour tous, quel que soit le statut.
L'avocat de la famille de Carlos Ghosn avec Olivier Samin, famille qui en appelle donc directement aujourd'hui aux Nations Unies. De nouvelles inscriptions à caractère antisémite découvertes, cette fois devant l'entrée d'une école maternelle publique de Strasbourg sous la forme d'une feuille de papier cartonnée posée devant l'entrée du personnel avec notamment une croix gammée. Trop, c'est trop pour le maire de Strasbourg, Roland Ries.
Dans la population, aujourd'hui, effectivement, il y a une inquiétude. Le contexte politique dans lequel on est aujourd'hui, avec cette multiplication d'actes antisémites, libère en quelque sorte des fantasmes anciens qui étaient enfouis et qui ressurgissent à cette occasion. Je pense qu'il y a effectivement une forme de banalisation, de contestation par la non-application des lois existantes. Je pense qu'il y a deux voies aujourd'hui. La première, évidemment, c'est de la sanction, de la répression. Et la deuxième voie, c'est d'essayer de faire de la pédagogie. Pourquoi, au lieu de condamner à de la prison avec sursis, pourquoi ne pas exiger X heures de formation sur l'histoire? C'est une piste que je trouve intéressante.
Le maire de Strasbourg, Roland Ries, joint pour Europe 1 par Romain Oquet. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. Le pape Pie XII et la Shoah, les archives du Vatican vont parler. À tout de suite. Il est 22h09, merci d'écouter Europe 1. C'était une demande de nombreux chercheurs pour comprendre le silence et l'inaction de l'Église face à la Shoah. Le pape François a décidé d'ouvrir d'ici un an les archives du pontificat de Pie XII, accusé d'avoir fermé les yeux sur l'Holocauste. Archives secrètes sur tout son règne, c'est-à-dire entre 1939 et 1958. Pie XII, un pape controversé, comme le rappelle l'historien des religions Jean-François Colosimo.
On voit deux thèses qui s'affrontent. Bon, une qui n'est pas vraiment très sérieuse, qui ferait de lui le meilleur allié d'Adolf Hitler, et l'autre qui présente au contraire qu'il a contribué au sauvetage des Juifs. La vérité, c'est que vraisemblablement, et c'est ça l'intérêt de l'ouverture des archives, on va voir que P12 s'était forcé d'agir autant qu'il pouvait dans des circonstances tout à fait difficiles. C'est donc essayer de faire une lumière raisonnable, rationnelle, sur un fait important du XXe siècle, particulièrement parce que le Vatican, depuis Vatican II, le concile, le fameux concile des années 1960, s'est engagé dans un rapprochement avec le monde juif et le judaïsme qui est sans précédent dans sa propre histoire.
L'historien des religions Jean-François Colosimo avec l'Or d'Autriche, le ministère des Affaires étrangères israélien, s'est dit satisfait de cette décision. Les patrons d'auto-écoles, une nouvelle fois mobilisés aujourd'hui à Nantes et à Lyon, toujours très remontés contre la réforme du permis de conduire et particulièrement inquiets de la concurrence des plateformes en ligne, à l'image de Serge Moustrou, rencontré pour Europe 1 par Jean-Luc Boujon.
La profession est clairement menacée par des auto-écoles en ligne, telles que Permis Libre, qui est sous le coup d'un arrêt préfectoral de fermeture administrative confirmé par voie judiciaire et qui plus est continue d'enregistrer des dossiers d'une manière complètement honteuse. Et d'ailleurs, l'un de ses cofondateurs a été en plus reçu à l'Elysée. Et ça, c'est un scandale parce que c'est récompenser des fraudeurs. Et c'est ça qui nous met en colère. Derrière tous ces gens-là, ce sont des financiers. Ça, il faut le savoir. Ce ne sont pas des pédagogues. Ce sont des gens qui ont levé énormément de fonds comme Niel, comme des amis autour du président de la République et qui, finalement, ont conceptualisé un système d'ubérisation, donc déjà un emploi fragile, précaire pour tout le monde. Donc les prix qu'ils cassent aujourd'hui, c'est pour nous éliminer tout simplement.
Serge Moustrou, patron d'auto-école mobilisé aujourd'hui à Lyon, il était au micro de Jean-Luc Boujon. Des kilomètres de bouchons aujourd'hui du côté de Calais et de Dunkerque, les douaniers ont voulu faire une démonstration de ce qui risque de se passer avec le Brexit. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué de façon stricte les règlements et les contrôles des poids lourds voulant rejoindre l'Angleterre. David-Olivier Caron est le secrétaire général de la CFDT Douane.
Ça pourrait même être pire, puisque avec l'arrivée d'une frontière tiers, s'il y aura encore plus de réglementations à mettre en place sur les zones transfrontalières, et donc demain, on pourra avoir une situation encore plus compliquée, puisque le Brexit ne va pas simplifier les choses, bien au contraire, il va les complexifier. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas prêt pour le Brexit. Les bâtiments qu'on nous a promis qu'ils devraient être opérationnels dans 3 semaines n'y seront pas. Donc on a un déficit immobilier, on va avoir un déficit de moyens humains. Quand le Brexit va arriver, mais on va travailler dans des conditions dégradées pendant très longtemps. Donc aujourd'hui, il y a une colère sourde qui remonte, qui est plus vaste sur la pénibilité du travail, sur la dangerosité de ce métier, sur les missions. Aujourd'hui, c'est tout ça. Le Brexit est le catalyseur d'un problème plus profond.
Le secrétaire général de la CFDT Douane, joint pour Europe 1 par Justin Morin, les syndicats demandent à être reçus par leur ministre de tutelle en charge de l'action publique, Gérald Darmanin. À propos du Brexit, Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne, va rencontrer demain à Bruxelles les représentants britanniques pour tenter de sortir de l'impasse. Il devait raccrocher théoriquement, mais José Bové a décidé de replonger de l'autre côté des Pyrénées cette fois. Le député Europe Écologie Les Verts européens devrait se présenter en Espagne, séduit par une liste d'indépendantistes catalans. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido est rentré à Caracas aujourd'hui en dépit des menaces dont il fait l'objet, accueilli par une foule de partisans, mais aussi par des ambassadeurs de plusieurs pays européens et latino-américains. Après un séjour en Colombie, d'où il coordonnait l'acheminement de l'aide humanitaire, il appelle à un grand rassemblement samedi contre le président Maduro. Le foot et la préparation qui continue pour nos Bleus, nouveau match amical ce soir avant le Mondial de foot féminin en France. Et après la défaite la semaine dernière contre l'Allemagne, les Français affrontent en ce moment l'Uruguay à Tours. On est à 55 minutes de jeu et ce sont les Bleus qui mènent pour l'instant 4-0. Elles dominent très nettement les Françaises. Et puis les fans de la série Beverly Hills sont en deuil ce soir. L'acteur américain Luke Perry a succombé à un AVC. Il avait 52 ans. C'est lui qui jouait le rôle de Dylan McKay dans cette série télévisée qui a fait le tour du monde dans les années 90. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous Valérie Darmon. Et après le temps agité d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu de très fortes rafales de vent par endroit. Demain, changement de programme.
Absolument Isabelle, et demain vont se maintenir uniquement encore du bassin parisien au Grand Est. Quelques averses quasiment toute la journée tout de même. Et quelques orages qui peuvent éclater ici ou là. Le ressenti sera automnal avec très peu de soleil et toujours du vent mais dans une moindre mesure. Des Hauts-de-France à la Bretagne, à la Normandie, c'est-à-dire sur le nord-ouest, les averses seront parfois fortes le matin avec là aussi un vent soutenu. Mais au cours de votre après-midi, le ciel se dégagera et les averses s'estomperont. Et puis de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, à l'Auvergne, à Rhône-Alpes, à la région PACA jusqu'à la Corse, le temps sera beaucoup plus lumineux qu'aujourd'hui, ensoleillé avec une douceur significative puisque les maximales oscilleront entre 9 à Charleville ou à Verdun et 19 degrés à Nice, à Mont-de-Marsan, à Biarritz et à Avignon. À Paris, 13 degrés annoncés au cœur de notre après-midi.
La météo signée Valérie Darmon sur Europe 1. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général de Danone Produits Frais, François Hérault. A tout de suite sur Europe 1. Et à 22h16, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui débute cette semaine en repli.
En baisse de 0,79% sur le Dow Jones. C'était bien parti pourtant en début de séance. Puis on a replongé 25 820 points sur le Dow Jones. Le Nasdaq recule de 0,23%, 7577 points, malgré les rumeurs d'accord commercial d'ici la fin mars entre Américains et Chinois. C'est ce qui a fait monter le marché initialement. Et puis c'est retombé tout simplement parce que Donald Trump a attaqué encore une fois la réserve fédérale. Ça plombe un petit peu l'ambiance, donc en fin de journée, les valeurs de technologie tentent de résister quand même. Intel gagne encore 1,2%, Apple plus 0,5%, $175,85. En revanche, Tesla recule de nouveau de 2,3%. Sur le pétrole, ça remonte de 1%, 1,3% exactement, $56,50 le baril. On a des valeurs qui sont quand même assez fermes du côté de la distribution. Walmart est stable, McDo recule de 2,4%, mais Coca-Cola reprend 0,6%. Donc un marché plutôt hésitant. L'euro campe sur les 1,13-1,13-30 face au dollar ce soir.
Et la Bourse de Paris a aligné une troisième séance de hausse.
Ça continue, plus 0,41%, 5 286 points sur le CAC 40, après avoir même franchi en séance la barre des 5 300 points. C'est un petit peu redescendu à la clôture, 5 286 donc. Les groupes exportateurs restent bien orientés, comme Saint-Gobain, plus 1,5%, comme Schneider, plus 1,3%, Legrand, plus 1%. Peugeot aussi gagne 1,2% et Danone 1,3%, aidé par le broker Berenberg qui vise un cours de 70 euros sur Danone. Danone a terminé ce soir à 66,72 €. Puis la plus forte hausse du jour revient à Interparfum qui grimpe de 4,6% après des comptes meilleurs que prévus en 2018.
Exception du jour, le secteur de la distribution qui recule.
Ça retombe sur Carrefour, moins 1,9%, sur Casino, moins 1%, alors que les analystes sont plus prudents sur le secteur, à l'image de la Société Générale qui ne conseille plus d'acheter Casino et de JP Morgan qui n'a pas été convaincu par les derniers résultats du groupe Carrefour. Carrefour donc en baisse d'1,9% ce soir. Sur les autres places financières, beaucoup d'hésitations aussi. Le DAX est quasiment stable à Francfort, moins 0,08%. Bruxelles, moins 0,05%. Madrid, moins 0,09%. Vraiment de tout petits écarts. Le CAC 40 à Paris gagne 0,41%. 5 286 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon détaillé. Didier Hamot de boursier.com. Et à 22h19, c'est l'heure de retrouver bien sûr l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir le directeur général de Danone Produits Frais.
Bonsoir François Hérault.
Bonsoir Emmanuel.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Danone Produits Frais France. Est-ce que c'est honteux de dire que vous occupez principalement des yaourts du côté de chez Danone ? Ça marche
exact.
Comme ça ?
Ça marche,
bon, c'était
ça.
Exact. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est déjà pour faire un bilan du salon de l'agriculture et puis d'élargir derrière sur ce qu'on appelle ces fameuses négociations commerciales qui sont capitales pour nous consommateurs parce que de ces négociations dépend le prix de ce qu'on va acheter. Allez, on commence déjà par le salon de l'agriculture. Quel bilan on en tire ?
Bah écoutez, nous, on est présents depuis une vingtaine d'années. Et pour nous, c'est important parce que, je vais vous dire un secret, pour faire de bons produits, il faut une bonne recette et de bons ingrédients. Mmh. Et ces ingrédients, ils viennent de notre agriculture et de nos éleveurs. Donc, on est en contact avec 2300 agriculteurs pratiquement quotidiennement avec nos équipes. Et ce salon, c'est l'occasion de les voir dans un contexte un peu différent et de parler du futur.
Alors, il faut souvent des bons producteurs, mais aussi pour que ça marche, il faut souvent bien les payer.
Alors, depuis très longtemps, effectivement, on fait très attention à la dynamique du monde agricole et on a des contrats depuis 2010 qui sont à terme avec nos éleveurs. Et si je suis un petit peu précis, depuis 2015, on a intégré également les indicateurs de coûts de production dans ces contrats. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça permet de lisser un peu les spéculations sur le lait et de leur donner de la visibilité, par exemple, pour faire des investissements.
Mais en termes de prix, là, par exemple, on a une petite indication entre Lidl et Lactalis à 37 centimes. Vous êtes dans cette étiage-là ?
Alors nous, on était déjà très au-dessus, puisque dans les dernières années, au moment où le marché a chuté, nous avons assumé avec nos éleveurs un surprix de façon à leur permettre de continuer à faire des bons produits et d'investir dans leurs exploitations. Et actuellement, on est en train de travailler avec eux sur des projets, non seulement au niveau du revenu et des investissements, mais on travaille également sur leurs coûts de façon à ce qu'ils restent très compétitifs, aussi bien économiquement que je dirais par rapport aux modes agricoles sur lesquels ils travaillent.
Et est-ce qu'on prend soin de la planète et soin du producteur lors de ces négociations commerciales ? Alors c'est un nom barbare pour nos auditeurs, mais c'est un moment capital qui se déroule pendant quelques mois. À qui on pense lors de ces négociations commerciales ? Parce que nous, pour être très honnête, en tant que journaliste, on est incapable de savoir qui est le méchant. Les distributeurs nous disent que c'est vous, Danone, et vous, généralement, les industriels, vous nous dites « Ah non, c'est eux les méchants ». Mais les perdants, c'est les producteurs.
Non, alors en fait, je pense qu'il y a quatre intervenants. Moi, j'étais co-président d'un des ateliers généraux de l'alimentation. Et en fait, il y a quatre intervenants. Il y a le consommateur, et c'est quand même pour le nourrir et pour lui offrir ce qu'il souhaite.
Alors que l'on travaille. Nous, consommateurs, on veut juste le moins cher, le mieux au moins cher. Nous, on ne veut pas grand-chose.
Absolument, mais il faut également le mieux. Donc, le mieux au juste prix. Et donc, ça, c'est l'intérêt du consommateur. Ensuite, il y a des gens comme nous qui transformons la matière. Il y a les distributeurs qui font la commercialisation et les agriculteurs. Si l'ensemble de la chaîne n'a pas l'espace pour vivre correctement, eh bien, on ne remplit pas notre responsabilité.
Oui. Mais de façon très concrète, je vais vous reposer la question différemment. Oui. Est-ce que de façon extrêmement concrète, vous avez l'impression que cette loi qui est passée, qui oblige logiquement à une meilleure redistribution et à moins de combats et à une augmentation des prix, est-ce que vous avez l'impression que ça a été mieux cette année ?
Alors, je suis convaincu, effectivement, qu'on est sur le bon chemin. D'abord, dans l'état
d'esprit.
Donc,
on part de très bas et ça va aller mieux, c'est ça que vous voulez
dire ? Absolument, absolument. On part de très, très loin, puisque dans les dernières années, il y a eu énormément de destruction sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc là, on est dans une dynamique où on essaye de reconstruire. En ce qui concerne Danone Produits Frais France et la filière laitière, globalement, on est dans une dynamique plus positive que les années antérieures. Bien entendu, il reste énormément de chemin à faire pour les prochaines années.
C'est ça, on part de très très loin et peut-être qu'un jour, on va y arriver. Alors, on va arriver maintenant sur votre activité. Je rappelle, François Hérault, que vous êtes le directeur général de Danone Produits Frais France. Donc, je disais en caricaturant un peu que vous êtes le patron des yaourts. Mais c'est une division capitale parce que c'est une division sur laquelle il y a énormément d'innovation. Quelle est la tendance de ce secteur ici chez nous, en France ?
Alors, en France, en fait, il y a deux aspects. Je dirais que les consommations traditionnelles ont tendance à légèrement s'effriter. Et par contre, il y a
Ça veut dire quoi, les consommations traditionnelles ?
Le yaourt,
le yaourt classique nature par 6,
pack de 16.
De 16,
voilà. Ce genre de produits ont un léger effritement dans la consommation. Et par contre, il y a des tendances formidables sur un certain nombre de segments. On parlait du bio, pour vous donner une idée. Le bio, c'est un segment qui fait une croissance de l'ordre de 30%. Alors, c'est un petit segment, mais qui croît. Dans l'ultra frais, vous avez également les offres végétales. Nous, on a la marque Alpro, qu'on a lancée l'année dernière. Pareil, qui sont des dynamiques très importantes. Et puis ensuite, vous avez l'innovation sur des produits générés à base yaourt. L'année dernière, on a lancé les yaourts du monde. Donc, c'est des yaourts qui sont inspirés de l'Islande, de la Grèce, etc., qui sont des produits plus valorisés, plus différenciés, sur lesquels le consommateur réellement se jette aujourd'hui. Et puis, on a lancé une marque comme Light & Free, également pour les consommateurs qui cherchent des produits relativement naturels, mais qui font attention à leur corps. Donc, en fait, c'est un marché très contrasté où il y a un effritement sur certains aspects et une explosion sur d'autres.
Donc, il faut innover parce que le traditionnel a moins la
cote. Absolument.
On voit aussi, du côté de nos principaux pays qui nous entourent, on est assez, nous, à vendre quand même les yaourts par 4, par 6, par 16. Dans la plupart des autres pays qui nous entourent, on peut prendre la Suisse, par exemple, qui est un très gros pays laitier. Là, on vend à l'unité. Est-ce qu'on va aller vers ça en France de plus en plus ?
De fait, le marché est en train de se déplacer. Plus ça va, plus il se tourne vers des petits conditionnements et également plus ils sont dans des petits points de vente où ils viennent compléter en snacking leur alimentation.
Et vous allez travailler là-dessus parce que justement, on avait la semaine dernière, ce même micro, Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, qui nous a dit « je vais accélérer comme un fou ». sur la proximité. Donc effectivement, a priori, dans la proximité, on achète un petit peu moins les yaourts par 16 que dans les grands hypermarchés Carrefour de l'époque. Vous allez vous adapter, vous, du côté de chez Danone, à cette proposition ?
On est déjà dans cette adaptation, puisque je vous parlais des Danone du Monde qu'on a lancé l'année dernière, où vous avez des packs de deux. Même chose pour Light and Free. Et on a également des offres. Maintenant, le pot de 500 grammes est également quelque chose qui se développe beaucoup. Donc effectivement, on est dans cette transformation. Pour moi, c'est la révolution de l'alimentation, à la fois sur les conditionnements, les lieux d'achat, et également le type de produit que les consommateurs recherchent. Ils cherchent des produits locaux, naturels et bons pour la santé. Et je pense que le yaourt n'est rien de plus local, naturel et bon pour la santé.
Qui veut savoir d'où ça vient ? Parce que vous dites un produit local, mais pour ça, il faut bien l'informer, il faut savoir ce qu'il y a dedans et d'où ça vient. On voit que les industriels freinent un peu sur les différentes normes pour essayer que nous, consommateurs, on en sache plus. Qu'est-ce qu'on va faire là du côté de Danone ? Comment vous allez nous informer un peu mieux ?
Nous, on est complètement convaincu que la transparence fait partie du succès et donc on est très transparent avec nos consommateurs. Juste pour vous donner des exemples, Nutri-Score, on est en train de déployer le Nutri-Score.
Nutri-Score, c'est la norme que le ministère voudrait mettre en place. C'est un paquet d'industriels qui disent vous êtes bien gentil, mais c'est trop compliqué.
Ben nous, on est en train de la mettre en place sur nos produits. Ensuite, on a rénové plus de 20% de nos produits en mettant simplement des arômes naturels et donc on est en permanence dans l'évolution de l'offre produit en fonction des attentes consommateurs. Et c'est vrai qu'ils demandent de la transparence et je pense qu'ils ont bien raison. Ce qu'il faut avoir en tête par exemple, c'est que Danone, c'est des fermes sur nos territoires, en Basse-Normandie, en Haute-Normandie. Et c'est des éleveurs qui ont en moyenne 70 vaches par élevage et qui sont dans un rayon de 60 km autour de nos laiteries. Donc c'est vraiment du multilocal ce qu'on fait.
Eh bien merci. Merci d'être passé en local ce soir dans les studios d'Europe 1. François Hérault, le directeur général de Danone Produits Frais France, qui était donc notre invité. On se retrouve demain, 22h20.
Merci à vous et à demain, Emmanuel Luteil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les informations que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? Et voici ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Europe, Macron revient à la charge, titre le journal L'Opinion, à propos de cette tribune que nous évoquions tout à l'heure, tribune qui sera publiée dans les journaux de tous les États membres demain. Après avoir mis l'Europe au second plan à cause de la crise des Gilets jaunes et du grand débat national, Emmanuel Macron donne le coup d'envoi des élections du 26 mai, nous dit L'Opinion. On en parle également dans le Figaro. Macron appelle à une renaissance européenne, titre le journal, qui publie une interview exclusive de Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, qui explique pourquoi il soutient Emmanuel Macron. Dans le journal L'Alsace, Emmanuel Delay revient lui aussi sur cette tribune dans son édito intitulé « Incantation ». 10 000 signes bien tassés adressés aux citoyens d'Europe afin de leur vanter un projet de renaissance. Voilà donc la forme qu'Emmanuel Macron a choisi pour entrer de plein pied dans la campagne des européennes. À 2 mois et demi du scrutin, écrit-il, la méthode est bien classique de la part du président de la start-up Nation. Le fond a lui aussi de quoi laisser dubitatif. Non pas que les intentions du président de la République soient mauvaises, ni son constat alarmiste infondé, mais en matière de propositions concrètes, Emmanuel Macron paraît pour le coup trop éloquent et guère réaliste, et c'est à lire donc dans le journal L'Alsace. Retraite, les limites repoussées, écrit Laura Berny dans Les Échos. Les Français partent à la retraite de plus en plus tard. 62 ans et 8 mois en moyenne en 2018, et même à 63 ans pour les femmes, alors que l'âge légal de départ est à 62 ans. C'est la conséquence directe des réformes engagées ces dernières années destinées à soulager le régime de l'assurance vieillesse alors que la proportion d'actifs ne cesse de diminuer. Et cette tendance n'est pas près de s'inverser puisque la nouvelle réforme en cours de discussion pourrait porter l'âge d'équilibre ou l'âge pivot si vous préférez, à 64 ans, quitte à accorder une surcote. Le temps des départs anticipés n'est pas encore complètement révolu, d'autant que beaucoup d'entreprises ont encore du mal à garder leurs aînés. Mais leurs jours sont désormais plus comptés, écrit donc Laura Berny dans Les Échos. Et puis une question pour finir à la une du journal La Croix. Qui est riche entre le haut de la classe moyenne et le seuil de la richesse? La frontière est difficile à établir. La crise des Gilets jaunes et le grand débat national ont porté haut l'idée de faire davantage contribuer les Français les plus aisés, ou pour parler un langage plus courant, les riches. Mais à partir de quel seuil devient-on riche? Difficile à déterminer, écrit Guillaume Goubert. On a toujours tendance à penser que le riche, ce n'est pas soi-même, mais l'autre, plus chanceux, le voisin, plus habile. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin.